Radio France Internationale, 4h30 en temps universel. Il est 6h30 ici à Paris. Et une nouvelle demi-heure d'infos avec vous, Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Jeanne et bonjour à vous qui nous écoutez.
Et à la une de votre journal, les transformateurs l'assurent, le message audio de Succès Masra qui aurait déclenché les violences à Mandakao d'après le gouvernement date d'il y a 2 ans.
Les avocats de l'ancien Premier ministre et opposants ont pris la parole hier, on est à N'Djamena dans un instant. Kinshasa dénonce une chasse à l'homme en cours à Goma, référence aux opérations menées par l'AFC M23 pour lutter contre l'insécurité. Le ministère de l'Intérieur parle de plus de 4000 enlèvements. Dans ce journal aussi, les Nations Unies s'inquiètent de la dissolution des partis politiques au Mali. Un film 100% sénégalais présenté à Cannes pour mettre en lumière le fléau de la dépigmentation. Et puis le journal des sports et la finale aller de la Coupe de la Confédération. Hier, Berkane s'offre une belle marge face à Simba après sa victoire 2-0. Succès Masra est donc toujours en garde à vue dans les locaux de la coordination de la police judiciaire. L'ancien Premier ministre, opposant à Mahamat Idriss Déby, est accusé d'avoir incité au massacre de Mandakao. C'était en milieu de semaine, une quarantaine de personnes étaient tuées dans cette région du sud du Tchad, dans un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Hier, pour la première fois, les avocats de Succès Masra ont pris la parole, conférence de presse Victor Moria, au cours de laquelle ils sont notamment revenus sur un message audio qui, selon le procureur de la République, aurait déclenché ces violences.
Le procureur et les membres du gouvernement pointent tous un audio qualifié de viral sur les réseaux sociaux attribué à Succès Masra et diffusé en langue gambaï, un dialecte du Logone occidental et langue maternelle de l'opposant. Selon eux, son message inciterait à la révolte et à la haine des cultivateurs contre les éleveurs de la région. Mais pour les avocats du président des transformateurs qui disent ne pas avoir accès au dossier d'instruction et donc ne pas savoir si c'est bien cet audio qui a conduit à l'arrestation de leur client, le message qui circule sur les réseaux sociaux est trouvable sur le compte YouTube officiel des transformateurs en date du 23 mai 2023 et ne peut donc pas être relié au massacre de Mandakao. Maître Francis Kadjilembaye, l'un des avocats de Succès Masra.
On ne peut pas nous brandir ce prétendu audio qui date de quelques années pour lesquelles un mandat d'arrêt avait été émis qui était d'ailleurs targué de faux et qui a été couvert en son temps par l'accord de conciliation d'une part, mais aussi par l'amnistie.
Succès Masra est toujours en garde à vue à la coordination de la police judiciaire. Il devrait être auditionné par un juge dans la semaine. Ses avocats demandent eux sa libération immédiate. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
5 anciens présidents africains pour régler un conflit vieux de plus de 30 ans. Fordia Singbé, fraîchement désigné médiateur de l'Union africaine pour le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, a reçu hier d'ex-chefs d'État pour trouver une solution africaine à la guerre. Olusegun Obasanjo du Nigeria, mais aussi Catherine Samba Panza et les anciens présidents kényans, botswanais, éthiopiens ont échangé à huis clos pendant plusieurs heures. Et pendant ce temps, justement, dans l'est de la RDC, à Goma, l'AFC M23 poursuit ses opérations dites de bouclage. Depuis une semaine, le mouvement politico-militaire, désormais au pouvoir dans la ville, mène des interpellations pour rétablir la sécurité, dit-il. Mais cela suscite des critiques, notamment au sein de la société civile, qui affirme que certaines personnes arrêtées sont toujours portées disparues, Florence Maurice.
Du côté de l'AFC M23, on explique que l'opération est toujours en cours, que l'ensemble des personnes arrêtées ont été trouvées en possession d'armes, de munitions ou d'effets militaires, et qu'actuellement un tri est effectué pour déterminer qui pourra être relâché, combien l'ont déjà été, combien restent détenus. Sur les chiffres, l'AFC M23 n'apporte pas de précision. Du côté de la société civile, certains s'inquiètent. Une source qui souhaite garder l'anonymat accuse l'AFC M23 de procéder à des recrutements forcés sous couvert d'opérations de sécurisation. Cette source affirme avoir été contactée par plusieurs familles en recherche de leurs fils, dont certains, dit-elle, auraient été signalés dans des camions militaires en direction de camps d'entraînement. Mercredi soir, dans un communiqué, le ministère congolais de l'Intérieur a dénoncé l'enlèvement, je cite, de plus de 4000 hommes et jeunes garçons embarqués de force dans des camions vers une destination inconnue. Les autorités de Kinshasa font également état de 107 cas d'assassinat, de centaines centaines d'exécutions sommaires dans une opération qu'elle qualifie de chasse à l'homme.
Florence Maurice, les autorités de Kinshasa, elles, ont présenté hier un projet de loi pour réformer la police. Le ministère de l'Intérieur a défendu le texte hier devant les députés. 2,3 milliards de dollars sur 5 ans pour recruter, former, mieux structurer et équiper la police. 90 000 nouveaux policiers devraient être recrutés jusqu'en 2029. Dans le sud-est de la RDC, c'est une opération d'un tout autre genre qui vient d'être lancée. Depuis hier, le parc national de Lupemba pose des balises GPS sur des éléphants. Objectif, mieux connaître, mieux étudier les pachydermes et éviter le conflit avec les humains. Pauline Glaise, il y a plus de 200 éléphants dans la zone de l'ancien Grand Katanga et tous ne seront pas équipés.
Une dizaine de leaders de différents groupes de pachydermes se verront passer ces colliers éléphantesques. Ces balises GPS permettront au parc de savoir plus finement où vont les éléphants. Rufin Panga, chef de la recherche et du biomonitoring dans le parc de Lupemba, espère ainsi leur éviter de croiser la route de braconniers.
Le parc n'est pas clôturé. Et là, ça va nous permettre au moins de dire que les éléphants sont à l'extérieur du paysage. Nous pouvons faire organiser un refoulement pour les retourner là où ils ne seront pas beaucoup plus inquiétés.
Comprendre les habitudes des pachydermes peut aussi aider à les préserver.
Ça va nous permettre aussi de savoir où est-ce que les éléphants passent beaucoup plus de temps. Ce seront des zones très vitales à protéger.
Repérer les comportements inhabituels serait tout aussi utile.
Quand vous voyez qu'il y a un collier qui se déplace un peu le plus vite possible, vous pouvez vous poser des questions, le pourquoi. On peut se dépêcher toute une équipe pour voir ce qui ne va pas.
L'équipe s'alarmera aussi de voir qu'un éléphant ne se déplace pas pendant plusieurs jours. Connaître la position des éléphants doit aussi permettre d'éviter des conflits avec les populations locales.
Nous allons passer par des alertes. En réaction aussi, les communautés locales sauront comment réagir pour que les éléphants ne puissent pas détruire leur champ.
Faire du bruit pour qu'ils s'éloignent est une option, mais les pachydermes peuvent s'habituer. Le parc entend donc mettre en place une boîte à outils pour faciliter la cohabitation.
Pauline Glaise du service environnement de RFI.
RFI.
4h37, en temps universel. Une trentaine de personnes réunies hier devant l'ambassade du Mali en France. La diaspora malienne présente sur place se mobilise pour dire non à la dissolution des partis politiques par la transition. Une dérive autoritaire dénoncée aussi par les Nations Unies. Vendredi, le haut commissaire aux droits de l'homme a qualifié de draconien le décret d'abrogation. Toute restriction de la participation politique doit être conforme aux obligations internationales du Mali en matière des droits humains, dit Volker Türk. Ravina Chamdamsan est sa porte-parole au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.
C'est très important que les gens peuvent parler, qu'ils ont des représentants politiques qui peuvent réagir, aider à résoudre des problèmes. Mais avec ce décret, vraiment, ça réduit au silence les voix dissidentes.
Le Haut Commissariat s'inquiète aussi des enlèvements par la sécurité d'État de responsables politiques.
Oui, nous demandons aux autorités de transition de libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées pour des motifs politiques. Nous avons vu qu'au moins 3 membres de l'opposition ont été arrêtés à la suite des manifestations. Et il n'y a pas d'informations sur les lieux où ils se trouvent. Et ils ne sont pas les seuls. Ils sont les dernières victimes d'une série de disparitions forcées qui remontent à 2021. Donc, nous demandons au système judiciaire de Mali de vraiment protéger les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique, mais aussi de vraiment mener des enquêtes.
Propos recueillis par David Bachet. En bref, clap de fin de la visite d'Ousmane Sonko au Burkina Faso. Le Premier ministre sénégalais a passé 2 jours à Ouaga, où il a notamment assisté hier à l'inauguration d'un mausolée dédié au capitaine Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés en 1987. Avant la cérémonie, la délégation sénégalaise a échangé avec le gouvernement burkinabé et il a notamment été question de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Les détails à écouter dans le prochain journal d'ici une 20aine de minutes. C'est un sujet tabou, un fléau qui touche de nombreuses femmes sur le continent. Et pourtant, il est souvent difficile d'en parler. La dépigmentation est au cœur d'un film présenté cette semaine au Festival de Cannes, Timpi Tamba, produit et réalisé au Sénégal par Adama Bintasso. Un long métrage pour briser l'omerta, qui a d'ailleurs reçu le prix mention spéciale au dernier FESPACO. Léa-Lisa Vesterhoff l'a regardé pour RFI.
Grand concours de beauté des établissements supérieurs de Dakar.
En colère de voir sa mère atteinte d'un cancer de la peau suite à l'usage de crème blanchissante, un jeune homme infiltre un concours de beauté déguisé en fille. Un scénario osé qui s'est imposé à la réalisatrice Adama Bintasso.
Autour de moi, j'ai vu vraiment que c'est devenu un phénomène. Des camarades qui, quand elles devaient se marier, tout d'un coup, deviennent claires. Je ne comprenais pas ce changement de couleur de peau et tout le mal que les femmes se donnaient. Et c'est un sujet qui me parle vraiment à cœur.
Avec humour, le film déconstruit ce fléau social aux conséquences souvent graves et touche à un véritable tabou. Papa Lidiop, acteur principal de Timpitampa.
Parce que la plus souvent, il y a nos mamans qui se dépigmentent. Donc c'est très difficile de dire à ta maman, arrête de te dépigmenter et tout ça. Il y a cette pudeur qui est en nous. Donc c'est très, 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 très tabou.
Selon une étude de 2018, 67% des femmes à Dakar utilise des produits blanchissants. D'où l'intérêt que le cinéma s'empare de ce sujet pour la coproductrice Véronique Silla-Besson.
C'est une problématique mondiale. Moi, quand je vois Beyoncé, qui est censée être la première chanteuse de couleur dans le monde, aujourd'hui elle n'est plus de couleur. Plus ça va, plus elle éclaircit. Et elle représente un modèle pour toutes les femmes. Donc c'est à se demander où est la fierté.
L'espoir est grand que Timpitampa, ni noir ni clair en français, fera date. Le teen movie sénégalais est à l'affiche dans 12 pays dans le monde et 22 salles sur le continent. Léa Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI.
Et Timpitampa sera projeté mardi à 15h au pavillon africain du Festival de Cannes. Et comme tous les matins, jusqu'à la fin du festival, on sera en direct de la Croisette dans le journal de 6h temps universel. Ce matin, Isabelle Chenu nous parlera d'un film projeté hier et qui a fait sensation. Nouvelle vague de l'américain Richard Linklater. Il est 6h41 à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Un témoignage grand format, celui d'un déplacé sud-soudanais, membre de la communauté Nuer qui se dit pris pour cible par les forces gouvernementales. Chemin d'écriture nous emmène ensuite à la rencontre du poète congolais Gabriel Mwene Ukundji. Et puis on vous plonge dans les coulisses du Palais Garnier, ce monument iconique de la capitale française. Fête cette année ses 150 ans. Mais d'abord les sports. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Arthur.
Du foot d'abord, Berkane remporte la manche aller de la finale de la Coupe de la Confédération.
Succès 2-0 des Marocains acquis dans le premier quart d'heure face aux Tanzaniens de Simba. Avec l'ouverture du score de Mamadou Lamine Camara dès la 8e minute, Oussama Lamlioli doublant la mise 6 minutes plus tard. Finale retour la semaine prochaine à Dar es Salaam avec peut-être au bout pour Berkane un troisième sacre africain.
Sacre africain que vise l'Afrique du Sud et le Maroc à la CAN U20.
Jour de finale pour la compétition en Égypte, Sud-Africain et Marocain face à face à partir de 18h temps universel. Un peu avant, le Nigeria affrontera l'Égypte pour la troisième place à 15h TU.
En MMA, Francis Mozou, grand gagnant de la troisième nuit de combat à Abidjan.
L'Ivoirien de 23 ans conserve sa ceinture après sa victoire dans la soirée de la Ligue Eric Favre Nation. Mozou s'impose au premier round face au Tunisien Nizar Yacoubi. L'Ivoirien avait été en avril dernier le premier à remporter une ceinture dans cette ligue. Une confirmation donc pour ce jeune combattant plein de promesses, Molamine Sissavané.
Une ceinture remise en jeu et défendue par le champion en titre.
Francis Mozou, champion en titre de la ligue Eric Favre Nation, le reste. Dans l'octogone, l'Ivoirien a pris l'ascendant sur Nizar Yacoubi. Le Tunisien, qui n'était pas son adversaire initial, a remplacé l'Égyptien Sodak. Francis Mouzou.
Après ça, moi et mon coach, on a plus travaillé. On a changé plutôt les données. On a mis cette technique en place pour pouvoir le battre au premier round. Peut-être les contrats vont venir de partout. Pourquoi pas ne pas conquérir le monde? C'est mon rêve le plus fou, quoi.
Eric Favre, patron de la Ligue après ce sacre de Mouzou, malgré la dimension imprévisible de l'affiche.
On a vu un combat qui était intéressant. On a eu un opposant à Mozou différent que celui qui était prévu, mais on a eu un bel opposant parce que le Tunisien avait quand même une belle technique. Donc Mozou évolue, il a beaucoup d'avenir.
Plein de promesses et d'expérience pour son âge. Ibrahim Faye, cofondateur de la Ligue, explique le principe de cette unique ceinture.
C'est quelqu'un qui a fait plusieurs combats en MMA et qui a plus de 100 combats en toutes disciplines confondues. Donc, il a atteint un niveau de crédibilité, un niveau d'expérience qui lui permet de faire un combat pour une ceinture.
Au fur et à mesure que la Ligue s'étend, notamment en août prochain à Montréal et en novembre à Conakry, plus de ceintures seront mises en jeu. Molamine Sissavané, Abidjan, RFI.
Un mot de cyclisme, Antoine, pour finir, et une victoire malienne sur la deuxième étape du Tour du Togo.
Une victoire pour Yaya Diallo qui s'impose au sprint à Dapaong. Une revanche pour l'ancien champion national qui avait été frustré hier sur la première étape et qui, cette fois-ci, devance son compatriote Fidel Cissé. Saturnin Yameogo, le Burkinabé, reste leader. Il conserve son maillot jaune avant la troisième étape. Un peu plus de 141 km aujourd'hui entre Mango et Cara. Ça sera tout simplement, Arthur, la plus longue étape de ce 30e Tour du Togo.
Tout un programme. Merci Antoine Grognier pour le Journal des Sports.
RFI, toute l'actualité, Arthur Ponchelet.
Dimanche 18 mai, bienvenue si vous nous rejoignez dans les grands titres de l'actualité internationale. Israël a intensifié hier son offensive dans la bande de Gaza avec l'objectif de vaincre le Hamas. Les secours locaux font état d'au moins 32 morts dans les bombardements israéliens du territoire palestinien dévasté et assiégé. Les appels internationaux pour un cessez-le-feu se sont multipliés. Ce dimanche est un jour d'élection en Europe, Roumanie, Pologne, Portugal. La Roumanie d'abord, avec le second tour de la présidentielle. Les bureaux de vote ont ouvert. Les Roumains ont le choix entre un candidat d'extrême droite, George Simion, et un candidat pro-européen, l'actuel maire de la capitale Bucarest, Nico Surdan. Élection présidentielle aussi en Pologne. Là, c'est le premier tour, un scrutin crucial pour l'avenir du pays. La coalition libérale et pro-européenne espère récupérer le poste de président, toujours aux mains du PiS, le parti conservateur qui a dirigé le pays jusqu'en 2023. Sans la présidence, le Premier ministre libéral Donald Tusk estime en effet ne pas avoir les mains libres pour gouverner. Et puis, il y a les législatives au Portugal. Le Premier ministre sortant, Luis Montenegro, est candidat à sa propre succession. Et il est favori, même si les intentions de vote laissent penser que la majorité absolue sera difficile à atteindre. C'est le jour J pour le pape. Une messe solennelle d'inauguration a lieu place Saint-Pierre en présence de dizaines de milliers de fidèles et de 200 délégations du monde entier. Et puis les sports. Et l'épilogue en Ligue 1 française, Nice sera en Ligue des Champions, Saint-Etienne est relégué. En Angleterre, surprise en finale de coupe, remportée par Crystal Palace contre Manchester City 1-0. 4h47 en temps universel. Notre reportage nous emmène ce matin au Soudan du Sud, le pays où les affrontements se poursuivent entre les forces loyales au président Salva Kiir d'un côté et celles alliées au vice-président Riek Machar de l'autre. Lui et plusieurs autres figures de l'opposition sont d'ailleurs toujours détenus. À ce jour, aucun combat n'a eu lieu dans la capitale depuis le début de cette crise au début de l'année, mais certains membres de la communauté Nuer, l'ethnie à laquelle appartient Riek Machar, disent vivre dans la peur. Notre correspondante Florence Mieto a rencontré un déplacé Nuer. Il dit avoir été pris pour cible par l'armée en raison de son ethnie. Reportage.
Des motos trimballent toutes sortes de marchandises dans cette rue qui file à travers les abris aux toits couverts de bâches en mauvais état. Nous retrouvons John derrière une palissade en bambou. À 55 ans, il compte à l'aide de ses doigts les années qu'il a passées dans ce camp de déplacés situé près de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, à Djouba. Comme des dizaines de milliers de Nuer de la capitale, il a fui les violences en décembre 2013, quand la guerre civile a commencé.
Je suis venu ici quand le conflit est devenu ethnique, quand des personnes innocentes, sans lien avec la politique, qui ne sont ni soldats ni combattants, ont été ciblées parce qu'elles étaient Nuer, alors que c'était un problème entre des politiciens à la base.
L'accord de paix de 2018, puis le retour de Riek Machar en 2020 au poste de vice-président, n'ont pas vraiment amélioré la situation dans le camp. Les casques bleus se sont retirés et la plupart des services humanitaires se sont arrêtés. En octobre 2024, John a décidé d'aller s'installer à l'extérieur du camp pour cultiver et chercher de l'or, jusqu'à ce que des combats éclatent autour de Djouba la semaine du 24 mars.
C'est le gouvernement qui a provoqué des combats partout. Ils ont attaqué des bases militaires où se trouvaient des soldats de l'opposition. Ils les ont chassés. Puis ils s'en sont pris à nous. Ils sont venus délibérément pour prendre nos abris et pour nous tuer car nous sommes des Nuer. Ils sont venus la nuit pendant que nous étions à l'intérieur en train de discuter.
Les soldats commencent à tirer et John s'en sort en faisant semblant d'être mort. Quand les soldats passent à une autre habitation, il parvient à s'enfuir avec un jeune blessé, laissant l'homme dont il partageait l'abri gisant par terre, mort sous les balles de l'armée gouvernementale.
Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ils ont tué ce gars et en ont blessé un autre. Moi, je me suis blessé sur des pierres car je courais pieds nus la nuit.
Il est revenu vivre dans ce camp surpeuplé où les gens manquent de tout et ont peur. 5 jeunes ont été tués depuis début mars aux abords du camp et d'autres résidents ont disparu.
Il y a le cas d'une femme qui est partie ramasser du bois de chauffe et qui n'est jamais revenue. Nous n'avons jamais retrouvé son corps. Mais si vous demandez aux femmes du camp, elles vous diront qu'elles ont trouvé du sang sous les arbres.
John cite aussi le cas d'un homme qui est allé là où il fabrique du charbon et n'est jamais revenu.
Pour lui, tant que l'accord de paix ne sera pas appliqué entièrement, les casques bleus devraient revenir assurer la sécurité du camp. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Un reportage de Florence Mietto à retrouver aussi sur RFI.fr. Chemin d'écriture s'intéresse ce matin à l'une des grandes voix de la poésie africaine francophone contemporaine, Gabriel Mouéné Okundji. Sa poésie d'initiation, mêlant le Congo dont il est originaire et la Garonne où il est installé depuis 40 ans, s'inscrit dans la modernité, Tirtan Karchanda.
Esprit du vent, toi qui souffles de là du temps et de l'horizon, toi qui connais l'éternelle éternité du visage lunaire, toi qui connais l'étreinte de l'air fidèle au génie des mondes illimités, toi qui connais la saison pluvieuse qui amène les grandes pluies, toi qui connais l'âme forte d'une forêt qui cache la douleur par son propre nom, par sa propre faune, par sa propre flore. Parle donc de ta parole unique une fois pour toutes, esprit du vent.
Lyrique et puissante, cette adresse aux éléments, dite par l'auteur en personne, ouvre l'âme blessée d'un éléphant noir, une anthologie poétique, poignante d'authenticité et de ferveur, sous la plume du Congolais Gabriel Mouéné Okundji. Les vers que nous venons d'entendre donnent le ton de ce volume, dans les pages duquel se déploie une imagination métaphorique, sophistiquée, doublée d'une sagesse venue de la nuit des temps. Depuis la publication de son premier recueil en 1996, Okundji s'est imposé comme l'un des poètes africains majeurs. Il est récipiendaire de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Autre consécration, il vient aussi d'intégrer la prestigieuse collection Poésie Gallimard avec la réédition de son recueil « L'âme blessée d'un éléphant noir ». Né en 1962 dans un village du Congo-Brazzaville, Gabriel Okundji vit depuis plus de 40 ans en France où il exerce le métier de psychologue clinicien. Poète dans l'âme, l'homme a à son actif une vingtaine de titres, dont une quinzaine de recueils de poésie aux accents initiatique. Gabriel Okundji.
Je suis né dans ce petit village-là, Okondo. Et d'Okondo, je migre vers la capitale avec tout ce que ça comportait de vacarme. Je me suis ressouvenu des moments de mon enfance où la sérénité berçait le quotidien et j'ai commencé là à écrire de la poésie. J'ai bâti le socle de ma poésie autour de mes deux muses, Mpili et Mpampo. Ce qu'ils m'ont appris, c'est de dire le conte, de chanter le proverbe, de pleurer l'énigme, de danser à la lumière du mot, afin que, une fois tout cela accompli dans le corps, on puisse se sentir homme encore parmi les hommes.
Dans la très belle et lumineuse préface que le critique littéraire Boniface Mongomboussa a écrite, présentant l'œuvre de son compatriote, on lira avec intérêt les secrets de l'écriture du poète, mais aussi le récit de sa dette envers le duo Bernadette Mpili et Papa Pampou. À la fois muse et maître à penser d'Okundji, ils initièrent le petit Congolais alors qu'il grandissait dans son arrière-pays isolé, aux énigmes de la poésie et de la vie. Réparti en 4 cahiers, ce recueil « L'âme blessée d'un éléphant noir » exalte la beauté du soleil en fuite et l'éclat de la lune dans le lait des éclairs. Il est aussi question dans ces pages des blessures de la vie, de la fragilité des êtres et des ténèbres originelles. Gabriel Okundji.
Je convoque l'humain au travers de ces 4 cahiers à essayer, par moment de doute, par moment d'égarement, de lui dire non, aucune obscurité n'est jamais totalement obscure, il y a toujours une part de clairière.
C'est justement cela, la singularité de la poésie de Gabriel Okunji. Elle trace le chemin vers la clairière avec pour mission de créer les conditions pour que, je cite, « les âmes parlent aux âmes dans la parfaite harmonie des dialogues entre terre et ciel ».
Chemin d'écriture avec Tirthankar Chanda. Bientôt 5 heures en temps universel. Avant de retrouver Julien Coquel-Rohem et le début des RFI matin, on fait un détour par Paris où l'on commémore le 150e anniversaire du Palais Garnier, l'Opéra Garnier. Ses immenses lustres, ses escaliers impressionnants et un héritage artistique indéniable. Ce matin, RFI vous emmène dans les coulisses de ce lieu où chaque soir se produisent danseurs ou chanteurs. Maria Afonso nous emmène à la rencontre d'Anne-Marie Legrand qui crée les costume féminin de l'opéra.
C'est voir quelque chose qui est joli et se dire « Ah ben tiens, ça je pourrais peut-être m'en servir, c'est une ligne qui me plaît. » Quand on est un petit peu dans cet état d'esprit, je m'émerveille des fois dans les petites choses, dans la rue ou même dans la campagne.
Anne-Marie Legrand se destinait à l'industrie de l'habillement. Elle se rend compte que ce cursus ne lui plaît qu'à moitié. En même temps, elle apprend qu'à l'opéra, de temps en temps, on recherche des gens pour les costumes. Tout commence en 1982 avec un premier contrat. Elle apprend tout sur place jusqu'à devenir responsable de l'atelier flou. Aujourd'hui, Anne-Marie Legrand nous révèle pourquoi ce nom.
Dans le vêtement féminin, il y en a de la coupe à plat. Par contre, dans le costume, en fait, c'est beaucoup des drapés. Donc vous allez travailler avec vos mains, avec le biais, avec les tissus. Et vous n'aurez pas forcément de patron. Vous le ferez éventuellement après, le patron. Mais le premier geste, ça va être le tissu, vos mains et le mannequin. Vous allez modeler, sculpter, faire des drapés. Et d'un tissu à l'autre, le biais, évidemment, il est différent. J'appelle toujours ça... Ça les fait rire à l'atelier, parce que je dis toujours, c'est la psychologie des tissus, c'est comme les gens en fait. Chaque tissu a son caractère et le biais, il révèle le caractère. Donc un tissu très fin, il va s'étirer, donc la difficulté va être plus grande de l'apprivoiser, de l'amener à ce qu'on veut. Un tissu plus sec, voilà, ça va être une autre façon. Et tout est à chaque fois, et de l'observer, de le voir, de le comprendre et de l'emmener là où on veut aller. Si la ligne est belle, parce que tout de suite on se recule un petit peu, ou on regarde le mannequin, on met le mannequin devant la glace, et on se dit, ah ben non, cette ligne-là, faut que je la redresse, ce volume-là, il est trop gros, faut que je le réduise, etc.
Pour Anne-Marie Legrand, le costume ne doit pas être une contrainte. Dans son métier, il est question de relations de confiance avec les artistes et de travail d'équipe.
Le théâtre, pour moi, c'est ça aussi, c'est ce travail d'équipe. Chacun amène sa pierre à l'édifice pour que le soir, le rideau se lève. Puis il y a aussi la relation avec les artistes, parce que ça, c'est très important aussi, une relation de confiance. Le challenge qu'on a, nous, toujours, c'est d'être au plus près du dessin, du décorateur, de la maquette. Et en même temps, dans le cas présent pour nous, les danseurs, les solistes, les étoiles, c'est important qu'elles aient confiance en vous aussi, parce que elles ne pensent qu'à leur danse, elles n'ont pas à dire, mon Dieu, là, ça va se décrocher ou autre, quoi. Elles oublient le costume qu'elles ont sur elles. Et ça, c'est important, en fait.
Retrouvez Anne-Marie Legrand, responsable de l'atelier flou de l'Opéra de Paris sur RFI.fr. Chronique 100% création et en podcast.
Et voilà pour ce troisième et dernier épisode de cette série de Maria Afonso consacrée aux 150 ans du Palais Garnier. Et c'est ainsi que se referme cette demi-heure d'actualité africaine. Merci à Thierry Le Saint et Vincent Dublange aux manettes ce matin. Avant de retrouver Julien Coquel-Rohem et RFI Matin, on écoute Après minuit de Whisky des Tiakola.
Way to do me nice, I know, yeah. Say I be calling, I calling, cause I know, say your love not gon' find. Many, many girls did my life, but now you with them my side, yeah. Say make you want me, say you know, say nothing loving, say not surely.
Je peux pas me prononcer, ma baby fait comprendre que je peux pas renoncer. T'as fait de moi un boss comme Rosé. Je peux pas résister quand tu remplis le rosé. À la quitte, la nuit quand je viens te déranger. T'as les épaules sur lesquelles je peux me reposer. J'ai juste un mélange de nos deux pour foncer. Allons au bout de nos pensées. À la quitte, j'ai dans la tête une mélodie qui t'y interdit après minuit. Sans te mentir, je veux m'évader. Mais tu m'as choisi même dans le pire. Dans la tête une mélodie qui dit interdit après minuit. Te laisser sans tes habits, c'est ma que t'as choisi, tu l'as pas pire.
Whenever you close to me, you dey give me balance, girl. My baby hold it down for me. So many other little things they do, where they bring me to you. It's more than anything anyone can do. You know me much better than the people do. Anything we do gonna make the news. Your body the truth. I need a type of vibe that can go for mine. Come make we stay this way for the whole ride. Oh, I make it very special. Put this to impress you one more time. Moving intention. Leave it to me. That's what you need, baby. Je peux pas me prononcer. Ma baby fait comprendre que je peux pas renoncer. T'as fait de moi un boss comme rosé. Je peux pas résister quand tu remplis de rosé. I like it, la nuit quand je viens te déranger. T'as les épaules sur lesquelles je peux me reposer. J'ai juste un mélange de nos deux peaux foncées. À nous au bout de nos pensées. Yeah, I like it. J'ai dans la tête une mélodie qui dit interdit après minuit. Sans te mentir, je vais m'évader. Mais tu m'as choisi même dans le pire.